Tacite, Annales, livre 14. Néron, que l'ambition de sa mère Agrippine l'empêche de gouverner, ordonne son assassinat. Néron évita donc de se trouver seul avec sa mère, et quand elle partait pour ses jardins et pour ses campagnes de Tusculum et d'Antium, il la louait de songer au repos. Elle finit, en quelque lieu qu'elle fût, par lui peser tellement qu'il résolut sa mort. Il n'hésitait plus que sur les moyens, le poison, le fer ou tout autre. Le poison lui plut d'abord, mais si on le donnait à la table du prince, une fin trop semblable à celle de Britannicus ne pourrait être rejetée sur le hasard. Tenter la foi des serviteurs d'Agrippine paraissait difficile, parce que l'habitude du crime lui avait appris à se défier des traîtres. Enfin, par l'usage des antidotes, elle avait assuré sa vie contre l'empoisonnement. Le fer avait d'autres dangers, une mort sanglante ne pouvait être secrète, et Néron craignait que l'exécuteur choisi pour ce grand forfait ne méconnût ses ordres. Anicette offrit son industrie. Cet affranchi, qui commandait la flotte de Misène, avait élevé l'enfance de Néron et haïssait Agrippine autant qu'il en était haï. Il montre que l'on peut disposer un vaisseau de telle manière qu'une partie détachée artificiellement en pleine mer la submerge à l'improviste. Rien de plus fertile en hasard que la mer. Quand Agrippine aura péri dans un naufrage, quel homme assez injuste imputera au crime le tort des vents et des flots? Le prince donnera d'ailleurs à sa mémoire un temple, des autels, enfin tous les honneurs, où peut éclater la tendresse d'un fils. Cette invention fut goûtée et les circonstances la favorisaient. L'empereur célébrait à Baï les fêtes de Minerve. Il y attire sa mère à force de répéter qu'il faut souffrir l'humeur de ses parents et apaiser les ressentiments de son cœur. Discours calculé pour autoriser des bruits de réconciliation qui seraient reçus d'Agrippine avec cette crédulité de la joie si naturelle aux femmes. Agrippine venait d'Antium. Il est là, au-devant d'elle, le long du rivage, lui donna la main, l'embrassa et la conduisit à Bolès. C'est le nom d'une maison de plaisance située sur une pointe et baignée par la mer entre le promontoire de Misène et le lac de Baïe. Un vaisseau plus orné que les autres attendait la mère du prince, comme si son fils eût voulu lui offrir encore cette distinction, car elle montait ordinairement une trirème et se servait des rameurs de la flotte. Enfin, un repas où on l'avait invité donnait le moyen d'envelopper le crime dans les ombres de la nuit. C'est une opinion assez accréditée que le secret fut trahi et qu'Agrippine, avertie du complot et ne sachant si elle devait y croire, se rendit en litière à Baï. Là, les caresses de son fils dissipèrent ses craintes. Il la combla de prévenance, la fit placer à table au-dessus de lui. Des entretiens variés, où Néron affecta tour à tour la familiarité du jeune âge et toute la gravité d'une confidence auguste, prolongèrent le festin. Il la reconduisit à son départ, couvrant de baisers ses yeux et son sein. Soit qu'il voulut mettre le comble à sa dissimulation, soit que la vue d'une mère qui allait périr attendrit en ce dernier instant cette âme dénaturée. Une nuit brillante d'étoiles, et dont la paix s'unissait au calme de la mer, semblait préparée par les dieux pour mettre le crime dans toute son évidence. Le navire n'avait pas encore fait beaucoup de chemin. Avec Agrippine étaient deux personnes de sa cour, Creperius Gallus et Acerronia. Le premier se tenait debout près du gouvernail et assez redi, appuyé sur le pied du lit où reposait sa maîtresse, exaltait avec la fusion de la joie le repentir du fils et le crédit recouvré par la mère. Tout à coup, un signal donné, le plafond de la chambre s'écroule sous une charge énorme de plomb. Crépéreus, écrasé, reste sans vie. Agrippine et Acéronie sont défendus par les côtés du lit qui s'élevaient au-dessus d'elles et qui se trouvèrent assez forts pour résister au poids. Cependant, le vaisseau tardait à s'ouvrir parce que, dans le désordre général, ce qui n'était pas du comblot embarrassait les autres. Il vint à l'esprit des rameurs de peser tous du même côté et de submerger ainsi le navire, mais dans ce dessein formé subitement, le concert ne fut point assez prompt, et une partie, en faisant contrepoids, ménagea au naufragé une chute plus douce. Acéronie eut l'imprudence de s'écrier qu'elle était Agrippine, qu'on sauvât la mère du prince, et elle fut tuée à coups de crocs, de rames et des autres instruments qui tombaient sous la main. Agrippine, qui gardait le silence, fut moins remarquée et reçut cependant une blessure à l'épaule. Après avoir nagé quelque temps, elle rencontra des barques qui la conduisirent dans le lac Lucrin, d'où elle se fit porter à sa maison de campagne. Là, rapprochant toutes les circonstances et la lettre perfide, et tant d'honneur prodigué pour une telle fin, et ce naufrage près du port, ce vaisseau qui, sans être battu par les vents ni poussé contre un écueil, s'était rompu par le haut comme un édifice qui s'écroule. Songeant en même temps au meurtre d'Acéronie et jetant les yeux sur sa propre blessure, elle comprit que le seul moyen d'échapper aux embûches était de ne pas les deviner. Elle envoya l'affranchie à Gérinus annoncer à son fils que la bonté des dieux et la fortune de l'empereur l'avaient sauvée d'un grand péril, qu'elle le priait, tout effrayé qu'il pouvait être du danger de sa mère, de différer sa visite, qu'elle avait en ce moment besoin de repos. Cependant, avec une sécurité affectée, elle fait panser sa blessure et prend soin de son corps. Elle ordonne qu'on recherche le testament d'Acéronie et qu'on mette le scellé sur ses biens. Or, cela seulement, elle ne dissimulait pas. Néron attendait qu'on lui apprît le succès du complot. Lorsqu'il reçut la nouvelle qu'Agrippine s'était sauvée avec une légère blessure et n'avait couru que ce qu'il fallait de danger pour ne pouvoir en méconnaître l'auteur. Éperdu, hors de lui-même, il croit déjà l'avoir à courir avide de vengeance. Elle allait armer ses esclaves, soulever les soldats, ou bien se jeter dans les bras du Sénat et du peuple et leur dénoncer son naufrage, sa blessure, le meurtre de ses amis. Quel appui restait-il au prince si Burrus et Sénèque ne se prononçaient? Il les avait mandés dès le premier moment. On ignore si auparavant ils étaient instruits. Tous deux gardèrent un long silence pour ne pas faire des remontrances vaines, ou peut-être croyaient-ils les choses arrivées à cette extrémité que, si l'on ne prévenait Agrippine, Néron était perdu. Enfin, Sénèque, pour seule initiative, regarda Burrus et lui demanda s'il fallait ordonner le meurtre aux gens de guerre. Burrus répondit que les prétoriens, attachés à toute la maison des Césars et pleins du souvenir de Germanicus, n'oseraient armer leurs bras contre sa fille. Canicet acheva ce qu'il avait promis. Celui-ci se charge avec empressement de consommer le crime. À l'instant, Néron s'écrie que c'est en ce jour qu'il reçoit l'Empire et qu'il tient de son affranchi ce magnifique présent. Canicette parle au plus vite et emmène avec lui des hommes dévoués. De son côté, apprenant que l'envoyé d'Agrippine à Gérinus demandait audience, il prépare aussitôt une scène accusatrice. Pendant qu'Agérinus expose son message, il jette une épée entre les jambes de cet homme. Ensuite, il le fait garrotter comme un assassin pris en flagrant délit, afin de pouvoir feindre que sa mère avait attenté au jour du prince et que, honteuse de voir son crime découvert, elle s'en était punie par la mort. Cependant, au premier bruit du danger d'Agrippine, que l'on attribuait au hasard, chacun se précipite vers le rivage. Ceux-ci montent sur les digues, ceux-là se jettent dans des barques, d'autres avancent dans la mer aussi loin qu'ils peuvent, quelques-uns tendent les mains, toute la côte retentit de plaintes, de vœux, du bruit confus de mille questions diverses et de mille réponses incertaines. Une foule immense était accourue avec des flambeaux. Enfin, l'on sut Agrippine vivante, et déjà on se disposait à la féliciter, quand la vue d'une troupe armée et menaçante dissipa ce concours. Anicette investit la maison, brise la porte, saisit les esclaves qu'il rencontre et parvient à l'entrée de l'appartement. Il y trouva peu de monde, presque tous à son approche avaient fui épouvantés. Dans la chambre, il n'y avait qu'une faible lumière, une seule esclave et Agrippine, de plus en plus inquiète, de ne voir venir personne de chez son fils, pas même Agérinus. La face des lieux subitement changée, cette solitude, ce tumulte soudain, tout lui présage le dernier des malheurs. Comme la suivante elle-même s'éloignait, « Et toi aussi, tu m'abandonnes ?» lui dit-elle. Puis elle se retourne et voit Anicette accompagnée du triérarque Herculéus, et de l'Oharite, centurion de la flotte. Elle lui dit que, s'il était envoyé pour la visiter, il pouvait annoncer qu'elle était remise, et que, s'il venait pour un crime, elle en croyait son fils innocent, que le prince n'avait point commandé un parricide. Les assassins environnent son lit, et le triérarque lui décharge le premier un coup de bâton sur la tête. Le centurion tirait son glaive pour lui donner la mort. « Frappe ici !» s'écria-t-elle en lui montrant son ventre. Et elle expira, percée de plusieurs coups. Voilà les faits sur lesquels on s'accorde. Néron contempla-t-il le corps inanimé de sa mère? En loua-t-il la beauté? Les uns l'affirment, les autres le nient. Elle fut brûlée la nuit même sur un lit de table sans la moindre pompe. Et tant que Néron fut maître de l'Empire, aucun tertre, aucune enceinte ne protégea sa cendre. Depuis, des serviteurs fidèles lui élevèrent un petit tombeau sur le chemin de Misène, près de cette maison du dictateur César qui, située à l'endroit le plus haut de la côte, domine au loin tout le golfe. Quand le bûcher fut allumé, un de ses affranchis, nommé Mnester, se perça d'un poignard, soit par attachement à sa maîtresse, soit par crainte des bourreaux. Telle fut la fin d'Agrippine, fin dont bien des années auparavant elle avait cru et méprisé l'annonce. Un jour qu'elle consultait sur les destins de Néron, les astrologues lui répondirent qu'il régnerait et qu'il tuerait sa mère. « Qu'il me tue, dit-elle, pourvu qu'il règne. »